tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Entre ces deux sports de combat, la boxe ou le MMA, discipline beaucoup plus violente que la boxe, où pratiquement tous les coups sont permis, les plus anciens préféreront la boxe, tandis que les plus jeunes pencheront vers le MMA. Dans notre parasha de Vaishlach, la Torah évoque elle aussi un combat entre deux titans. Yaakov, notre patriarche, d'un côté, face à lui, un ange, identifié par nos sages comme le mauvais penchant, l'instinct du mal, l'émanation de Esav, Esaü, le frère ennemi de Yaakov. Et un sage contemporain, Rav Shmuel Auerbach, soulève une question très intéressante. En effet, le Midrash raconte que sur le chemin pour aller sacrifier son fils Yitzhak, le mauvais penchant est apparu à Abraham, son père, sous la forme d'un fleuve infranchissable, un mirage, un leurre, pour décourager Abraham de poursuivre sa route et le contraindre à renoncer, à accomplir la volonté divine. Et de même pour Yitzhak, le mauvais penchant lui est apparu sous la forme d'un clown, tournant en dérision tous ses mérites et lui assurant que toutes ses bonnes actions ne servent à rien, puisque de toute façon, l'héritage d'Abraham était depuis longtemps promis à Ishmaël, frère de Yitzhak et surtout fils aîné de Abraham. De nouveau, pour décourager Yitzhak, l'ange du mal a menti, a voulu leurrer et tromper Yitzhak. Mais lorsque ce même mauvais penchant s'est attaqué à Yaakov, le troisième des patriarches, l'ange du mal ne s'est pas contenté de le tromper avec un mensonge. Non, cette fois-ci c'est physiquement, au corps à corps, que ce mauvais penchant a défié Yaakov. Le Rav Auerbach s'interroge sur ces différences dans la manière dont le mauvais penchant a lutté avec nos deux premiers patriarches, Avram et Yitzhak, par le mensonge et le leurre, alors que vis-à-vis de Yaakov, l'ange du mal a été beaucoup plus agressif. Et le Rav Auerbach va expliquer ainsi cette différence. Si Avram est connu pour son infinie bonté, et Yitzhak, lui, pour sa rigueur sans faille dans l'application des commandements divins, au point d'accepter d'offrir sa vie si l'Éternel le demandait, car pour lui, la loi est la loi, un commandement est un commandement. Yaakov, lui, incarne la perfection. Dans chacun de ses faits et gestes, la tiferet, la splendeur selon les kabbalistes, une forme de couronne pour Yaakov, ses descendants, la Torah qui fait de ceux qui l'étudient et l'appliquent, des rois, dans leur vie de tous les jours, comme l'enseignent les sages dans le Talmud. Qui sont les véritables rois sur terre? Ce sont les sages, imprégnés de la vérité, du Emet, émanant de la Torah, pour soumettre, tels des rois, toutes leurs actions, leurs paroles et même leurs pensées à l'Éternel, et ressentir à chaque instant cet infini bonheur d'être en adéquation avec soi-même, d'être parvenu à nourrir son âme sans délaisser son corps. Et que pour un être autant attaché à la Torah et à la vérité, le mensonge n'a pas sa place. Le Midrash l'explique par une parabole. Une princesse habituée aux mets les plus raffinés et les plus savoureux ne se laissera jamais tenter par un simple sandwich. Ainsi, tous les plaisirs terrestres et éphémères n'ont aucune valeur pour un amoureux de l'étude de la Torah et qui a goûté à la saveur d'une page du Talmud et que rien, strictement rien, ne pourra le contraindre à renoncer à son étude. Et que Yaakov, après avoir étudié ses 63 premières années de sa vie auprès de son père Yitzhak, puis 14 années supplémentaires auprès de Shem et de Éver, les descendants de Noach, Yaakov était parvenu à ce niveau d'attachement à la Torah, au point que le Chatam Sofer, ce géant hongrois du 19e siècle, enseigne que tant que Yaakov était vivant en Égypte, les enfants d'Israël, même si physiquement résidaient au pays des pharaons, les enfants d'Israël n'avaient aucun rapport avec l'Égypte, comme s'ils n'y habitaient pas. Et que dès lors, face à un Yaakov animé d'un tel amour de la Torah, une illusion, un fantasme, un simple mensonge étaient des armes insuffisantes, et que c'est seulement dans un corps à corps que l'ange du mal pouvait terrasser et tenter de vaincre Yaakov, ce corps à corps qui constitue cette forme de lutte ultime où chacun des deux protagonistes se battent avec toute leur énergie possible et imaginable jusqu'à la dernière force dans ce combat où il n'y a que deux issues possibles, la vie ou la mort, et qu'à la fin de ce combat nocturne. Après avoir tout donné, l'ange du mal reconnaîtra sa défaite face à Yaakov. Et nous savons que l'histoire de Yaakov est en fait la nôtre. Nous, Juifs, vivant aux confins de la délivrance finale, et que précisément dans notre génération, où l'étude de la Torah n'a jamais été aussi répandue, où des centaines de milliers de Juifs à travers le monde s'adonnent à l'étude de la Torah, l'ange de Ésav jette lui aussi ses dernières forces dans la bataille pour nous détourner de la Torah. Car ce n'est pas hasard si face à cet essor de la Torah, le monde, dans son histoire, n'a jamais proposé autant de loisirs, de distractions, de vêtements, de nourriture, etc. à notre génération. Jamais l'argent n'a occupé une place et joué un rôle aussi important dans nos vies. Autant de raisons et d'occasions de délaisser l'étude de la Torah. La bonne nouvelle, c'est que Yaakov nous a ouvert la voie et que même si dans la nuit, il a été blessé au niveau de la hanche, au petit matin, l'ange du mal a reconnu la suprématie de Yaakov, l'homme au pied de l'échelle, littéralement, devenant Israël, le prince de Dieu, tutoyant les cieux. Ainsi, nous sommes assurés, même si à chaque génération, une partie des enfants du peuple juif, symbolisée par la hanche, siège de l'appareil reproducteur de l'homme, cette frange du peuple juif va s'égarer et se perdre au fur et à mesure de notre histoire. La victoire, celle que nous sommes en train de remporter, est au bout du chemin. Alors pour conclure, sans vouloir vous décevoir, entre la boxe et le MMA, un juif doit bien sûr s'abstenir d'assister à ces sports de combat qui renvoient aux jeux de cirque, où des gladiateurs de l'Antiquité s'affrontaient et se tuaient parfois pour le plaisir des spectateurs avides de sang et d'horreur. Car nous le savons, le seul véritable combat qui mérite d'être mené, c'est celui contre nous-mêmes, dans un dessein d'imiter Yaakov et d'être, nous aussi, des dignes descendants des enfants d'Israël. Shabbat shalom à vous tous. Kulam.